Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clémence Lataste. Bonjour.
Bonjour.
Clémence, nous t'avions reçue il y a à peu près 2 ans pour annoncer ta venue et puis de nous présenter donc cette équivalence créative que tu proposais à l'époque avec 2 autres personnes. Depuis, les choses ont évolué. Et là, tu viens pour nous parler un peu de ton activité qui se renouvelle et qui s'affirme. Donc, et tu vas nous proposer prochainement donc un cycle d'ateliers qui commenceront à partir du mois d'octobre, le 2 octobre, et qui concerne la communication non violente. Et proposé à qui principalement ?
Alors, c'est proposé à toutes les personnes qui sont intéressées d'explorer leur manière de... d'interagir, je dirais, plus largement que de communiquer, en fait. C'est comment on est en relation les uns avec les autres. Donc déjà, comment on est en relation avec nous-mêmes. Et après, ça influence évidemment comment on va être en relation avec les autres. C'est-à-dire que si déjà avec nous-mêmes, on est très dans l'autocritique, la dévalorisation, par exemple, parce que probablement c'est ce qu'on a appris dans notre enfance, alors probablement qu'on va reproduire ce genre de comportement autour de nous. Donc ça, c'est juste un exemple parmi plein d'autres, mais l'idée, ça va être vraiment d'interroger nos manières de fonctionner internes et aussi dans la relation, pour pouvoir explorer des situations qu'on peut vivre, qui sont désagréables, qui se reproduisent, qui sont douloureuses, difficiles, par exemple dans le couple, par exemple au travail, avec les enfants, voilà, avec nos parents. Et de pouvoir voir comment on peut aller clarifier ce qu'on vit et ce qui se passe dans ces situations pour un peu comme démêler les choses, y voir plus clair et donc du coup arriver à avancer, à construire plutôt que de rester embourbé dans des situations inconfortables et qui n'amènent à rien en fait. Parce que l'inconfort en soi, c'est pas mal, mais c'est juste que quand on reste dedans et que ça n'évolue pas, c'est souvent insatisfaisant.
Cela fait donc un peu plus de 2 ans que tu es installé dans le Diwa.
3 ans même.
3 ans même. Mmh. Est-ce que c'est par ton expérience sur le terrain que tu t'es orienté vers cette proposition de communication non violente ? Tu en décèles une nécessité ?
En fait, plus qu'une nécessité, je vois qu'ici particulièrement, il y a de l'intérêt pour ce sujet. J'ai l'impression, moi j'habitais dans la région de Toulouse avant de venir ici. Et il y a de l'intérêt, mais disons que c'est déjà une ville plus grande, Toulouse, donc voilà, c'est un peu plus dilué. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'intérêt pour se questionner, en fait, sur les systèmes qui sont en place ou sur nos modes relationnels dont on a hérité, et de pouvoir choisir. Donc, le fait d'apprendre, le fait de se questionner, le fait de remettre en question, ça permet de, du coup... faire des choix, en fait. Et j'ai l'impression qu'ici, les gens, ils ont envie de faire des choix qui soient conscients et qui soient en lien avec leurs valeurs.
Quels sont ces choix, justement ? Quels sont les tenants de ce choix ?
Faire des les choix dont je parle, pour moi, c'est le choix de comment, par exemple, je vais être avec mes enfants. Là, en l'occurrence, moi, comment je vais être avec ma fille et qu'est-ce que je vais choisir de prendre de ce dont j'ai hérité et qu'est-ce que je vais choisir de ne pas prendre. Et donc, par exemple, ne pas prendre ce qui est de l'ordre de la culpabilisation, ce qui est de l'ordre de la punition, de la récompense, qui est quelque chose qui est assez commun dans notre société, dans le mode éducationnel, on va dire, courant. Donc c'est ce genre de choix dont je parle, ou le choix de comment je vais parler à mon conjoint, ou le choix de comment je vais subir ou ne pas subir les situations, comment je vais reprendre la responsabilité de ce que je vis plutôt que de me mettre dans une position de victime où je subis et où du coup j'ai aucune capacité d'action, ni d'autonomie, ni de souveraineté dans ce qui se passe et donc où je me sens coincée. Donc voilà, c'est le choix de comment je vais prendre les choses qui m'arrivent, principalement, ouais.
Je voulais savoir ce que tu proposes donc sur les communications non violentes. Est-ce qu'il existe concrètement un exemple qui en est le résultat de ce que tu proposes ?
Tu veux dire un exemple concret que...
Oui, une auquel histoire. Tu as participé ou... Voilà.
Bah là, là, récemment, une amie me partageait une situation qu'elle a vécue, que je trouve très illustrante, donc j'ai bien envie de partager, qu'elle est d'accord que je la partage. Elle était en voiture avec son conjoint sur l'autoroute et il y a une voiture, il s'est passé une interaction avec une voiture et donc sur l'autoroute ça va très vite et ça peut faire très peur. Et donc il s'est rien passé au niveau accident, mais il y a eu beaucoup de colère et de peur en fait derrière. Et donc il se trouvait que la personne en question, enfin la voiture en question sortait à la même sortie d'autoroute qu'eux. Donc ils sont sortis et son conjoint lui a dit tu suis la voiture, tu la suis voilà, avec un peu de colère, mais en mode voilà, on veut parler quoi avec cette personne. Et du coup, ce qu'elle lui répétait en fait à son conjoint, c'est de lui dire j'ai pas envie qu'il y ait de violence, mais j'ai envie qu'on se rappelle qu'on a eu peur en fait. On a eu peur, c'est ça qui se passe au fond, c'est qu'on a eu peur. Derrière la colère, c'est qu'il y avait voilà, de la peur de, juste bah, de, pour sa sécurité. Donc ils ont suivi la voiture et à un moment donné, la voiture s'arrête, il faut arrêter la voiture, la dame sort de la voiture. Et du coup, son conjoint lui dit simplement, on a eu très très peur en fait, et on voulait vraiment vous le dire que voilà, ce que ça nous a fait, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et la personne, elle a pu aussi partager qu'elle a eu peur en fait. Et au lieu de vivre une interaction qui est violente ou de dire mais vous êtes inconscient, mais vous vous rendez pas compte, mais voilà, d'être plutôt dans le jugement de l'autre, ce qui est quelque chose qu'on fait juste naturellement, qu'on peut pas éviter de juger, mais là c'était juste choisir de partager ses jugements ou choisir de partager ce que ça nous fait. Et donc ça a créé une réalité complètement différente, parce que si je choisis de partager mes jugements, a priori ça va donner envie à l'autre de faire pareil. Et donc on connaît bien ce genre d'altercation en voiture où les deux sortent en furie et commencent à taper sur la voiture, je ne sais quoi. Là l'idée c'est d'arriver à voir qu'est-ce que ça nous fait et du coup de proposer un autre mode relationnel pour créer d'autres situations. Et là en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que chacun a pu exprimer leur peur, ce qui s'est passé, et puis voilà, tout simplement ils sont repartis. Et ça, pour moi, c'est un exemple concret de à quel point ça peut changer notre manière de vivre les uns avec les autres.
Alors, la communication non violente, là, c'est un exemple de problème de route, de circulation. Quels sont, vous abordez tous les types de violences et dans tous les cadres, en général ?
Oui, en fait... Alors ça me donne envie de revenir sur ce que c'est la violence, enfin pourquoi ça s'appelle communication non violente, parce que souvent c'est quelque chose, si tu veux bien que je fasse une petite digression, c'est souvent quelque chose qu'on me renvoie, et qu'on renvoie en général autour de la communication non violente. C'est vrai que ce mot, cette appellation, elle peut être un peu floue, parce qu'en fait les gens peuvent se dire « mais moi je suis pas violent, pourquoi j'aurais besoin d'apprendre à communiquer ?» L'idée derrière la communication non violente, c'est pas d'éradiquer la violence, dans le sens, c'est pas de vouloir ne plus être violent et dire que la violence c'est mal, pas du tout, parce que si on dit que la violence c'est mal, on retourne dans ce schéma manichéen du bien et du mal, et c'est ce qu'on essaye de dépasser avec la communication non violente. C'est plutôt de se situer dans cet espace où, à l'intérieur de soi, on a dépassé la violence. Ça veut pas dire qu'elle est plus là, ça veut juste dire qu'on s'y est confronté. On est allé voir notre propre violence, donc c'est ce qu'on va explorer dans ces ateliers aussi, c'est quels sont mes jugements, quelles sont mes critiques, qu'est-ce que je reproche à l'autre, qu'est-ce que j'aimerais que l'autre fasse mieux, en quoi je me juge moi-même, pour vraiment se familiariser avec cette part de nous qu'on appelle le chacal en CNV, qui est super violent, mais qui est violent parce qu'en fait il veut nous faire prendre conscience de certaines choses qui sont importantes pour nous en fait, de nos valeurs, de ce sur quoi on va pas déroger parce que ça compte beaucoup pour nous. Et donc l'idée c'est d'aller explorer cette violence, donc largement, ça veut pas dire on va aller se taper dessus pour voir ce que ça fait, mais la violence plutôt dans les pensées, dans les réactions, pour pouvoir les apprivoiser plutôt que les interdire et les dépasser et arriver à choisir de faire autrement, puisqu'on se rend compte que quand on est dans la non-violence, on va pouvoir construire plus les uns avec les autres et trouver de la paix juste à l'intérieur. Voilà, du coup, c'était important pour moi de revenir là-dessus. Et concrètement, sur les situations ou sur les domaines qu'on va explorer, par exemple dans ces ateliers que je vais proposer là en octobre, c'est des situations de la vie quotidienne, en fait. C'est vraiment des choses très concrètes, très, très présentes, en fait. C'est pas, on ne va pas aller explorer les dossiers de nos blessures du passé avec nos parents ou je ne sais quoi, parce que ça, ça serait de la thérapie. Et ce n'est pas le but de ces ateliers. Le but de ces ateliers, c'est plus... Bien sûr, on va toucher à ces sujets parce qu'ils sont dans le fond, mais c'est plus d'aller prendre les choses qui nous agacent au quotidien, qui sont récurrentes. Par exemple, je ne sais pas, on rentre le soir, on est fatigué, nos enfants crient, ou bien c'est difficile au moment des devoirs, ou c'est difficile au moment du repas ou du coucher. Et ben, comment on peut arriver à apprivoiser ces situations, à les décortiquer, à les comprendre, à voir ce qu'on vit, et pour pouvoir trouver des moyens de... Donc Marshall Rosenberg, c'est celui qui a créé la CNV, on va dire, il disait de se rendre la vie plus belle, en fait. C'est vraiment... Le but, c'est ça, c'est de trouver comment je peux identifier les endroits où il y a des nœuds dénoués, petit à petit, et donc sur toutes les choses du quotidien, que ce soit au travail, en famille, en couple, avec nos amis, enfin voilà, ça concerne vraiment toutes les sphères de notre vie.
Donc les outils, pour ça, vous les avez, puisque vous étiez déjà venu présenter, osons parler, écouter, coopérer avec Équivalence Créative. Et là, vous proposiez des formations, des conférences, ateliers, accompagnements pour les communications interpersonnelles. Ce sont des outils que vous utilisez toujours pour ce cycle d'ateliers sur la communication non violente.
Voilà, en fait... mon domaine d'intervention, c'est la communication interpersonnelle et la démarche qui soutient ça, c'est la communication non violente, en sachant que je suis en cours de certification. Ça veut dire que voilà, il y a une sorte de reconnaissance par les pairs d'appartenir à cette communauté de formateurs. Donc je suis en cours de certification, ce qui veut dire que je peux transmettre la CNV, mais que je ne suis pas encore formatrice CNV officielle. Et ça, je tiens à le dire aussi. Mais en effet, en fait, la CNV, c'est vraiment le support privilégié sur lequel je me base pour animer ces stages et ces ateliers. Disons, c'est l'angle de vue par lequel je vais proposer d'explorer notre vécu, nos situations quotidiennes.
Cette certification est reconnue par quel organisme ?
En fait, c'est une certification qui est reconnue, qui n'est pas reconnue par l'État. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, malheureusement. Mais qui est reconnue par les pairs, en fait, et qui est reconnue par un organisme qui s'appelle le CNVC. C'est un organisme international qui est basé aux États-Unis, mais voilà, enfin, qui, parce que Marshall Rosenberg était des États-Unis, mais en fait, finalement, ça n'a pas tant d'importance que ça, le lieu. C'est plus une communauté internationale, en fait, et c'est reconnu par cette communauté. Et par aussi la communauté francophone, de manière plus restreinte ici.
Ce cycle d'ateliers de communication non violente s'adresse aux particuliers, mais aussi aux associations, oui. Voire aux entreprises.
Oui, alors en fait, ce cycle d'ateliers, il est d'abord destiné aux particuliers qui viennent pour eux, pour leur vie personnelle, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec deux casquettes, avec la casquette perso, donc pour travailler des situations de vie familiale ou de couple ou d'amis, et aussi qui viennent avec leur casquette professionnelle. Et souvent, en effet, c'est des personnes qui sont dans des associations ou qui sont dans des écoles, dans des crèches, et qui travaillent directement avec des personnes en face, disons, qui ont des relations... au quotidien, dont le travail, c'est vraiment la relation. Donc ça peut être aussi dans le domaine médico-social. Et c'est vrai que les gens viennent souvent pour explorer les deux facettes. Mais quand même, j'ai envie de dire que dans ces ateliers, on va quand même concentrer notre attention sur, en premier lieu, comme ça, c'est un cycle 1. Donc c'est vraiment le démarrage de l'exploration et de la découverte. On va quand même plus centraliser l'exploration sur soi, parce qu'en fait, on ne peut pas appliquer un outil, et j'ai envie de dire la CNV, c'est plus qu'un outil, mais ça peut être vécu comme ça aussi. On ne peut pas l'appliquer sur d'autres, avec d'autres, tant qu'on ne l'a pas appliqué pour soi. Donc ces ateliers, ils sont vraiment centrés sur l'exploration de nos manières de réagir avant tout.
Pour ce cycle d'ateliers, cela va se présenter sous quelle forme ?
Alors en fait, ça se présente sous 6 soirées, donc c'est le mercredi de 17h45 à 20h45, donc c'est 3 heures d'atelier. Ça se passe à l'école Terre d'Enfance, à Die. Et donc voilà, il y a 6 mercredis, plus un dimanche, donc une journée entière, le dimanche 3 novembre, où là on va prendre plus le temps d'aller plus en profondeur, parce que pendant 3 heures, c'est assez limité, même si c'est déjà conséquent. Mais ça va nous permettre de vraiment avoir beaucoup de temps de pratique. Et l'idée dans ces ateliers, c'est qu'il y ait un peu de temps de théorie, mais surtout de la pratique, surtout de l'expérimentation. Parce qu'en fait, c'est par l'expérimentation et la pratique qu'on va pouvoir intégrer. Parce qu'on va se confronter à nos freins, on va se confronter aux endroits où on n'a peut-être pas bien compris le processus, où on n'a pas bien clarifié ce qu'on vivait. Et donc, on va explorer comme ça, cheminer, processer par la pratique. Donc, concrètement, les personnes, elles vont se mettre en binôme, souvent, ou en trinôme, et elles vont pratiquer des processus que je vais proposer, des exercices, en fait. Et moi, je vais être là, et aussi, il y a une personne qui s'appelle Catherine qui va être là en soutien pour venir répondre aux questions, aider, voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Et donc, ben, chacun va choisir un peu avec qui il a envie de se mettre. Et souvent, les gens en tournent pour aussi voilà, découvrir les uns les autres. C'est un groupe qui va être constitué entre 8 et 12 personnes. Voilà.
Donc, des places limitées. Et pour ça, il y a aussi certainement une nécessité de réserver.
Oui, c'est clair que... du coup, je demande aux personnes de s'inscrire. Il y a un bulletin d'inscription en ligne voilà, qu'on remplit et qui permet de réserver une place, en sachant que là, il y a déjà 8 personnes qui sont inscrites, du coup, il reste 4 places de libres. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie, bienvenue.
Et puis, c'est l'occasion d'indiquer peut-être l'adresse mail ou l'adresse de ce site.
Donc l'adresse, en fait, c'est sur ma page Facebook. Donc c'est Clémence Lataste Formation, tout, voilà, tout attaché. Et donc, ben, sur la page Facebook, il y a l'événement et dans l'événement, il y a le lien du bulletin d'inscription. Voilà.
Avec ces ateliers de communication non violente, vous prenez en compte tous les tracas possibles du quotidien. Ça va du matin, ça peut être une information à la radio entendue et qui met de mauvaise humeur déjà.
Ouais, ça peut être ça, ça peut être toutes les petites choses du quotidien qui viennent nous titiller ou qui viennent nous perturber, nous mettre dans un inconfort. Et c'est comment on va aller voir ce que ça nous fait pour comprendre en fait que derrière ce que ça nous fait, c'est que ça parle de quelque chose qui est important pour notre équilibre en fait. Par exemple, bon, moi j'écoute, ça fait longtemps que j'écoute plus trop l'actualité, que je choisis plutôt ce que j'ai envie d'entendre. Mais si j'entends une nouvelle qui me touche ou qui me met en colère ou qui m'alarme, et ben en fait, ça, le fait de connaître ce processus de la CNV, ça m'aide à savoir, à décrypter ce que ça veut dire derrière et à en faire quelque chose plutôt que de rester dans dans la colère ou d'être révolté et de rester dans cette révolte qui finalement utilise notre énergie mais pas à bon escient, dans le sens qu'on va pas utiliser notre énergie pour créer, pour se mettre dans l'action, mais pour râler, pour critiquer. L'idée, c'est de passer de cette énergie qui critique à cette énergie qui agit, en fait. Et donc, pour moi, cet outil de la CNV, il aide à ça, parce que ça aide à identifier qu'est-ce que ça dit au fond de ce qui est important. Et souvent, ça vient parler de valeurs, en fait, d'aspirations profondes qu'on va pouvoir mettre en action du fait de les avoir identifiées.
S'adressant à tous les publics, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... plus ouverte à ce type d'atelier que d'autres. Cette activité d'atelier de communication non violente s'adresse à toutes les personnes. Mais est-ce qu'il y a, une prédilection pour les candidats?
Je pense que souvent les personnes qui viennent aux ateliers, c'est des personnes qui ont déjà fait un travail sur eux dans le sens où ils se sont déjà questionnés. Par exemple, ils ont eu un accompagnement individuel, que ce soit un psy ou quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas qu'ils ont pu cheminer, explorer leur vécu, remettre en question des comportements. Ou bien c'est des personnes, je dirais, qui ont pris une grosse claque et qui se sont dit « là, il y a quelque chose à voir parce que je ne peux pas rester dans cette situation ou dans cet inconfort ». Et on leur a parlé de la communication non violente et donc ils ont envie de découvrir. Donc je pense que c'est à peu près ces deux profils-là. Et après, c'est sûr que quand on n'a pas envie de se questionner sur nous-mêmes ou sur nos modes de sur nos comportements ou nos modes de fonctionnement, on va pas vers la CNV parce que c'est clair que c'est trop confrontant sinon.
Donc c'est sur le volontariat hein, que les personnes viennent.
Oui, et ça c'est, enfin en tout cas dans les ateliers c'est évident parce que c'est les personnes elles-mêmes qui s'inscrivent. Après j'interviens aussi en entreprise ou en tout cas dans le cadre professionnel. Et là dans ces situations-là, je dis vraiment aux personnes qui organisent la formation que c'est important pour moi que toutes les personnes qui viennent soient volontaires. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes à qui on a imposé cette formation. Et en fait, c'est pas possible parce qu'on peut pas imposer aux gens de se questionner sur eux-mêmes ou sur leur mode de fonctionnement. Et souvent, c'est même vécu comme très violent par les personnes de se faire imposer une formation sur la communication non violente. C'est vécu comme « Ah, je suis violent, ce que je fais, ça va pas, mon comportement va pas, donc on me redresse et on me met en formation. » Et ça, c'est pas possible, en fait, parce que sinon, on peut pas travailler ensemble. Et puis les personnes, en fait, c'est contre-productif. Donc voilà, c'est très important que les personnes qui viennent, elles soient totalement volontaires et totalement dans l'intention... d'explorer et dans la curiosité de découverte de ce qu'elles vont voir d'elles-mêmes et aussi de ce qu'elles vont peut-être échanger avec d'autres. C'est vraiment une formation où il y a beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup d'introspection, mais il y a aussi beaucoup d'interactions, d'écoute avec les autres, de partage. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de cette démarche et c'est ça que ça a changé pour moi dans ma vie. C'est le fait que ça crée vraiment des liens très profonds et très soudés très rapidement, en fait. Je crois qu'il y a des gens qui sont des amis depuis peut-être 10 ans ou 15 ans, avec qui j'ai moins de profondeur de lien que des gens avec qui j'ai passé 2 jours de formation en CNV. Parce qu'en fait, on va directement dans la profondeur de ce qu'on vit, et donc on crée un lien qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai, et beaucoup plus vulnérable aussi, parce qu'on va partager des choses parfois fragiles. Mais du coup, ça crée une confiance, en fait, une confiance mutuelle. Et du coup, ça me donne envie de... partager, ça me fait penser à l'intention de pourquoi on veut créer une association, comme je te disais, autour de la CNV dans le Diwa. C'est parce que pour moi, c'est dans l'idée de créer cette communauté de soutien mutuel, de partage. Et pour moi, en fait, c'est comme ça qu'on peut être résilient dans la vie. C'est en étant soudé, en créant des communautés, des groupes soudés. Et en ce moment, il y a un sujet qui me touche beaucoup, c'est autour de l'effondrement et du renouveau, tout ce qui est autour de la collapsologie. Et en fait, j'ai passé des étapes de désespoir d'inquiétude ou d'angoisse à me dire qu'est-ce qu'on va faire, en fait, si cette situation, elle arrive vraiment. Et je pense, enfin, moi, je suis assez convaincue que, voilà, il va y avoir des gros changements bientôt. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression aussi, parce que c'est à l'endroit où je sais... c'est un endroit connu pour moi, mais j'ai l'impression que vraiment le fait de renforcer les communautés au sens large, hein, la communauté pour moi c'est voilà, le village, les voisins, les amis, la famille, et bien le fait de renforcer les liens et de souder ces liens, ça permet de pouvoir se soutenir et d'être vraiment dans l'entraide, même si ça peut être déjà le cas, hein, dans notre quotidien, mais pour moi les situations extrêmes ou de catastrophes ou de... ou d'effondrement, elles vont aussi venir nous chercher à cet endroit-là, de comment on va réagir. Est-ce qu'on va réagir par la fuite ou par peur, ou est-ce qu'on va réagir en s'entraidant? Et a priori, c'est plutôt cette deuxième option qui est la plus naturelle. Et pour moi, le fait d'avoir déjà des manières de communiquer, de fonctionner ensemble, ça permet d'éviter des conflits, pas inutiles, mais qui pourraient nous prendre beaucoup d'énergie dans des situations où on a besoin d'agir rapidement. Voilà.
sont les places pour le passé, le présent et l'avenir dans ces ateliers ?
Alors, dans les ateliers, on va se concentrer sur le présent surtout, dans le sens où on va vraiment essayer de voir qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Par contre, on va souvent se référer à des situations passées, que ce soit hier, avant-hier ou il y a 10 ans. Mais on va venir vraiment au présent parce que c'est dans le présent qu'on va pouvoir transformer des choses, qu'on va pouvoir guérir ou qu'on va pouvoir avancer. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain non plus. Mais par contre, on peut agir aujourd'hui dans comment je vais choisir de vivre des événements que j'ai vécus dans le passé. Et aussi, du coup, de faire des choix et faire des demandes et passer à l'action pour le futur et reprendre son pouvoir dans comment on va créer notre vie, en fait.
Donc, pour le volontaire, il y a nécessité aussi d'une ouverture face à l'autre lors de ces ateliers, hein ? Et puis, on va passer aussi au domaine de la parentalité, donc, où là, tu proposeras en janvier aussi un projet. Tu peux nous en dire la teneur, s'il te plaît ?
Oui. Donc, l'idée de ce stage, alors il est encore en cours de création, hein, donc ça va se préciser, mais vraiment l'intention de départ, c'est avec une amie, Lorraine Biolay, avec qui bah, on est toutes les deux mamans. Et on partage beaucoup autour de cette thématique et Lorraine, elle est aussi très très intéressée et pratiquante de la CNV. Et du coup, on avait vraiment l'envie de partager ce que la CNV nous permet de clarifier dans notre vie de maman. C'est-à-dire que ce stage, il va être axé sur qu'est-ce que ça me fait vivre d'être parent. C'est pas comment je peux utiliser la CNV avec mes enfants, ça pourrait être un autre stage, mais c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est avant tout, parce qu'avant d'utiliser, on va dire, la CNV comme un outil, ça demande de l'avoir intégré avec soi-même pour pouvoir après en fait l'utiliser, mais sans le vouloir en fait. Juste, c'est là. Donc là, avant tout, ce stage, ça va être de se demander qu'est-ce que le fait d'être parent, ça vient bousculer, bouleverser, chambouler dans ma vie, et qu'est-ce que ça vient m'inviter à regarder dans mes comportements, dans mes héritages peut-être de ma propre éducation. Qu'est-ce que ça vient chambouler et comment dans des situations de craquage, on va dire, et c'est souvent ça qui se passe en tant que parent, on craque parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus d'inspiration, d'idées, on ne sait plus comment faire. Comment je peux faire pause dans ce quotidien assez intense que c'est d'être parent. Et faire pause pendant 2 jours, pendant un stage, pour explorer toutes ces situations quotidiennes qui se répètent, en fait, qui sont là dans la routine de notre quotidien de parent. Et comment on peut les interroger pour arriver à comprendre ce que ça nous fait vivre, à voir ce qui est important pour nous et à trouver des solutions qui soient plus bénéfiques, autant pour nous que pour les autres, pour la famille, pour les enfants. Donc ça va être aussi un temps d'accueil, de soutien, d'écoute. Parce que en fait, moi en tout cas, je peux me sentir souvent isolée quand je suis seule face à mon enfant. Isolée dans je ne sais pas quoi faire, je regrette d'avoir crié, je regrette d'avoir fait ça, d'avoir dit ça. Et donc là, ça va être aussi un moment pour pouvoir poser tout ça en fait. Poser aussi les moments où on n'est pas fier de nous, les moments où on aurait aimé faire autrement, et s'amener un peu de bienveillance et de douceur avec nous-mêmes, parce que ce qui est le plus difficile en plus, c'est quand en plus d'avoir fait quelque chose qui ne nous plaît pas ou qu'on regrette, on se tape dessus par la suite et donc on s'en veut, donc on culpabilise, donc voilà, tout ce cercle vicieux, ça va être de un peu arrêter ça et juste déposer et soutenir là-dedans.
Sur le territoire du Diois, justement, les distances sont conséquentes. Hein. Ça appuie encore plus la solitude ou l'isolement.
Ouais, ça peut. Ça peut. Je me rappelle d'avoir rencontré une maman dans les cours de rééducation du périnée. Et en fait, elle me disait que c'était super difficile pour elle d'être perdue dans la montagne, seule avec son enfant en bas âge, parce que quand on a un enfant en bas âge, c'est difficile de se déplacer, en tout cas c'est moins simple, ça demande beaucoup d'organisation, et elle n'avait pas forcément de lien autour, donc c'est clair que ces situations, elles créent de l'isolement, et l'idée c'est sortir de cet isolement pour partager, et moi j'ai découvert aussi quelque chose, c'est que Alors de plus en plus, je pense que ça se fait, mais il y a une sorte de non-dit social autour de la parentalité et où ça devrait toujours bien aller en fait. C'est ça va, ça se passe bien, oui, nickel. Alors qu'en fait, au fond, quand on est tout seul chez nous, ça va pas du tout. Mais on va pas oser en parler parce que on va se dire peut-être que non, mais en fait, si je dis mes difficultés, je vais peut-être être vue comme un mauvais parent, ou bien non, mais je peux pas en fait, je peux pas parler des endroits où je foire parce qu'on va me juger. Et l'idée là, c'est vraiment de sortir de cet isolement autant géographique que relationnel, de se dire oui, bah moi aussi je galère, toi aussi tu galères. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut se soutenir avec ça et s'inspirer mutuellement?
Ce stage de parentalité qui se déroulera en janvier, est-ce que tu as déjà quelques pistes du lieu?
Oui, donc ça va être le week-end du 11-12 janvier à Abiter, à Die. Et donc, je suis super heureuse d'avoir cet endroit parce que je le trouve magnifique. Et en plus, on aura aussi la possibilité de faire dormir des gens sur place parce qu'il y a à peu près 5-6 places en haut, là, dans les apparts, pour pouvoir rester, en fait, dans une bulle tout le week-end. Et ce que j'invite les parents à faire, les parents qui auront envie de venir, c'est de s'offrir ce moment de bulle. On coupe avec le quotidien et on prend vraiment un temps. On rentre pas à la maison le soir. On s'offre ce cadeau de pouvoir rester avec soi un petit temps et s'offrir du temps pour s'explorer, ce qu'on n'a pas le temps de faire en fait dans le quotidien, qui va vite, qui s'enchaîne. Donc voilà, ça sera là-bas, avec la possibilité que ça soit en résidentiel pour ceux qui le veulent, et pour ceux qui habitent à côté ou qui préfèrent rentrer, c'est aussi complètement possible.
C'est dans l'ordre naturel que tu sois passée de diplômée de sciences politiques en accompagnatrice ou en facilitatrice, on peut dire aussi, non?
Oui. Ouais, j'aime bien ce mot, plutôt que formatrice, j'aime bien facilitatrice. En fait, je ne sais pas si c'est dans l'ordre naturel, je crois qu'en fait, mes études à Sciences Po, elles m'ont permis d'avoir un aperçu, comment dire, d'un œil, d'une manière de voir la société. Et en fait, j'ai réalisé que moi, je n'avais pas envie d'œuvrer dans ce paradigme-là social. Je n'avais pas envie de m'investir dans les organisations telles qu'elles étaient aujourd'hui. Et du coup, je pense que ces études, je ne sais pas ce qu'elles m'ont apporté de concret encore vraiment, mais ce qu'elles m'ont apporté, c'est de voir ce à quoi je voulais dire non, ce que je ne voulais pas vivre en fait. Et donc du coup, de créer mon activité pour pouvoir m'offrir la possibilité de vivre ce que je voulais dans ma vie professionnelle et aussi de pouvoir transmettre des choses qui me parlent et qui sont peut-être un petit peu hors normes, un petit peu... et qui le sont de moins en moins. La CNV, c'est de plus en plus reconnu quand même, mais qui ne sont pas vraiment quelque chose qui est normal, en fait, et qui est intégré dans toutes nos institutions, qu'elles soient politiques ou autres, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une suite logique. Je pense qu'il y a vraiment une rupture pour moi à un moment dans mes études où j'ai réalisé que, en fait, c'est pas, j'avais pas envie de travailler en costard, pas costard cravate pour moi, mais tailleur talon, et que j'avais pas envie d'aller à Paris à la Défense, quoi. C'est un gros cliché, mais bon, il y en a quand même beaucoup qui travaillent à Paris et qui sont en tailleur. Et ça, c'était pas mon envie, en fait. Au-delà du côté apparence, hein, c'est vraiment tout ce qui va avec, en fait, toute cette ambiance de carrière et de reconnaissance sociale par la place. C'est clair que la reconnaissance sociale, elle compte aussi aujourd'hui pour moi. Je ne vais pas le nier dans mon travail, dans ce que je fais. J'ai beaucoup de reconnaissance, mais je ne voulais pas que en fait, le poste, le lieu où je vais travailler, l'argent que je vais gagner, je ne voulais pas que ça soit la motivation en fait, dans ma vie, dans mon travail. Je voulais que ma motivation, ça soit le sens qu'il y a dans ce que je transmets, dans mes actions, dans ce que je fais. Et c'est pour ça que du coup, je dirais que c'est comme si le fait d'avoir fait Sciences Po, ça m'a fait prendre un virage en fait, vers vraiment... ça m'a fait voir, au lieu de dire je veux pas ça, c'est qu'est-ce que je veux en fait. Et je crois que ce que je voulais, c'était vraiment œuvrer dans un domaine où ça prend soin des humains, ça prend soin de nous et des relations entre nous.
Tout à l'heure, tu parlais de l'effondrement qu'on commence à percevoir de plus en plus. Et ça, c'est forcément un vecteur aussi de violence, non?
Je sais pas en fait.
Comment l'aborderais-tu, cette forme d'effondrement ou cette figure de l'effondrement par rapport à ton activité?
Ben moi, ce qui me saute aux yeux, en fait, quand je prends conscience de la situation et voilà, de l'effondrement probable de notre civilisation de consommation basée sur le pétrole, j'ai l'impression que, pour moi, en fait, c'est peut-être un peu paradoxal, mais je vois plus une opportunité de renouveau que la perte de quelque chose, parce que je crois que la perte, bien sûr, il va y avoir des conséquences dans le quotidien, et je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai envie de me préparer à la possibilité que le quotidien soit difficile, qu'on ait moins facilement à manger, moins facilement accès aux ressources en général. Mais par contre, là où ça m'enthousiasme et où même ça m'excite, c'est que je me dis, ah, enfin la possibilité de recréer en fait autre chose. Et un système qui soit plus en accord avec mes valeurs, plus en accord avec la vie en général, et en accord avec le lien, quoi, qu'on base nos échanges sur le lien plutôt que sur le résultat, que sur l'optimisation constante, que sur le fait de gagner, du résultat. Pour moi, et c'est vraiment, vraiment en lien avec le paradigme de la CNV qui est mettons la relation au centre, la connexion, le lien, l'intention de lien, plutôt que le résultat de solution. L'intention de la CNV, c'est vraiment de remettre la connexion entre les gens, en fait, le lien au centre des questionnements. Et pour moi, c'est une super opportunité, cet effondrement, de remettre le lien au centre.
Voilà pour la parentalité et la non-violence. Et puis, il y a un projet aussi que tu souhaites monter d'une association, donc basée toujours sur la communication non-violente. Et pour ça, tu as déjà le contact avec plusieurs personnes ?
Alors, en fait, oui, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Parce que autour de moi, là, Adi et au-delà, il y a plusieurs personnes avec qui je suis en lien qui ont les mêmes envies que moi autour de la communication non violente, à qui ça parle aussi. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une difficulté de fédérer, de créer un mouvement et de se rassembler. Et là, suite à une conversation avec Lorraine, avec qui donc, on est en train d'organiser ce stage sur la parentalité, on a vu qu'en fait, on avait vraiment envie d'être plus que deux, parce qu'on avait plein d'idées, on avait plein d'envies, mais qu'à deux, c'est vraiment limité. Et déjà, moi, je voyais déjà seule dans mon activité, c'est limité, et je sens qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être ensemble, de faire ensemble autour de ce thème. Et donc, on lance ça avec Lorraine, mais c'est ouvert vraiment à toute personne qui aurait envie de mettre de l'énergie dans le fait de pouvoir diffuser la CNV, la faire connaître et organiser des choses qui nous font plaisir, en fait, qui nous nourrissent, qui nous font plaisir, comme je disais, que ce soit de l'écoute sur le marché, des stands d'écoute, ou que ce soit des groupes de pratique pour pouvoir approfondir notre aisance avec ce processus, ou bien que ce soit du soutien par de l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent aussi dans ma vie, c'est d'avoir des possibilités d'écoute. Et je pense que c'est quelque chose qui est très peu répandu, en fait, de la possibilité d'avoir quelqu'un qui va juste être là pour écouter, qui va pas me donner de solution, qui va pas me conseiller, qui va pas essayer de résoudre ma situation, mais qui va juste m'écouter. Et ça, je vois à quel point c'est un soutien quotidien hyper important, et j'aimerais vraiment qu'il y ait plein de gens qui puissent bénéficier de ça. Il y a aussi un concept qui s'appelle les cafés empathie, qu'on aurait envie de développer, et j'ai entendu aussi d'autres personnes autour qui ont envie de ça, des amis qui m'en parlent. Et donc voilà, l'idée de cette association, c'est un peu comme regrouper toutes ces idées, tous ces élans, toutes ces envies pour faire ensemble, pour avoir plus d'énergie ensemble et créer des synergies aussi dans les projets. Voilà, donc de rassembler. C'est ça l'intention de cet asso, et je pense qu'après, ça va être en fonction des gens qui vont être là. On va voir ce qu'on va en faire, mais l'idée, c'est de base, c'est ça, rassembler.
Tout à l'heure, on abordait les ateliers que tu proposais avec Équivalence Créative. La créativité, c'est propice aussi à combattre la violence, non ?
Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment dans cette créativité qu'on s'invite à aller avec la CNV, c'est-à-dire dépasser les schémas connus de relations et aussi dépasser les c'est pas possible, on n'a pas le choix, on peut pas, il y a pas les ressources, il y a pas les moyens, je peux pas. C'est sortir de cette impuissance pour aller au-delà de au-delà des freins et des limites qu'on va se mettre et se demander si au fond pour satisfaire nos besoins et le fait de revenir à quel est mon besoin en fait dans cette telle ou telle situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour moi. Eh ben, on va pouvoir sortir ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire des solutions toutes faites, où on va avoir notre regard qui va être dirigé vers une solution, et on va se dire ben, c'est ça ou rien. Et en fait, on va inviter notre créativité à imaginer d'autres solutions. Et j'ai un formateur que j'aime bien qui disait « demande la lune, en fait ». Ose demander la lune dans le sens ose rêver en fait à ce qui serait, c'est quoi ton rêve au fond, c'est quoi que tu veux vraiment vivre. Et moi j'ai adoré expérimenter ça et voir que c'était possible en fait, et que c'est mes propres limitations qui faisaient que j'osais pas demander et donc j'osais pas créer ce que je voulais vivre. Donc la créativité elle a vraiment une place super importante, parce qu'on va s'autoriser à imaginer, s'autoriser à penser à des choses qui peuvent nous paraître un peu folles ou un peu décalées ou délurées, mais en fait qui peuvent être des fois possibles, alors qu'on aurait imaginé que ça l'était pas. Voilà, oser demander, c'est vraiment aussi ça qu'on va se proposer de faire avec la CNV.
Eh bien Clémence, merci d'être venue nous parler de tes projets, donc ces cycles d'ateliers que tu proposes à partir du 2 octobre. Hein, et pour ça, il suffit de communiquer par le site Facebook Clémence Lataste Formation tout attaché. Et sinon, il y a un numéro de téléphone, mais ça, on les trouve indiqués sur la page Facebook.
Ouais.
Voilà, et donc pour les personnes motivées, elles trouveront les moyens de te joindre. Et puis aussi, donc ce stage de parentalité que tu donneras en janvier.
Voilà, tout à fait. Ben, merci en tout cas à toi Yves, voilà, de ton intérêt, de tes questions.
Ouais. Bonne soirée, au revoir.
Thank you. やれ、遠場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付すもの世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行者、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは亡者の弔い、遠場を立てるは死者への弔い、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、遠場を
やる、
トーバーを